Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Je crois que ça va te plaire. La Lune Rouge, c'est pas la première fois que sa trajectoire croise celle de la Terre. Chaque fois, ça correspond à des bouleversements.
Mais t'es aveugle ou quoi? C'est pas une coïncidence.
Le Dernier Voyage, film de science-fiction français par Romain Quirot avec Hugo Becker, Paul Amy, Lia Oussadi-Lesser et Jean Reno. Et Justin, je crois que c'est toi qui t'es porté volontaire pour nous raconter un petit peu
oui.
Ça.
Donc c'est un film qui se situe dans un futur plus ou moins proche. Et donc c'est donc un futur où il y a un nouvel astre qui est apparu, une sorte de nouvelle lune rouge qui est apparu dans le système solaire, et donc que les hommes ont décidé d'exploiter. Voilà, c'est une nouvelle source d'énergie. Sauf qu'il s'avère que plus ils exploitent cet astre, plus l'astre semble s'approcher de la Terre et vouloir se percuter la Terre. Donc il y a une décision qui est prise, c'est de le détruire. Donc c'est un peu le pitch d'Armageddon, hein, en quelque sorte. Voilà, avec une arme nucléaire, rentrer dans l'astre et le faire exploser avant qu'il percute la Terre. Alors, dans cet univers, il se trouve qu'il y a un seul astronaute qui est capable de piloter l'engin pour aller détruire l'astre, mais il s'avère que cet astronaute a disparu. Et donc, on va le découvrir. En fait, il est en cavale, enfin, il est clandestin, et il semble poursuivre un autre objectif qu'on va découvrir au cours de flashback, parce que lui, il pense que cet astre n'est pas forcément destiné, n'est pas hostile forcément à la Terre. Donc du coup, tout au long du flashback, il va rencontrer une adolescente qui va l'accompagner dans sa quête, et ils vont essayer de tout en fuyant, en étant poursuivis par les agents, notamment le frère de cet astronaute, ils vont essayer de résoudre une sorte d'énigme, je sais pas, spirituelle ou existentielle sur la raison d'être de cet astre. Et comment empêcher cette collision, finalement. Voilà. Alors, c'est un premier film, je crois. Donc, moi, c'est un film qui, au niveau formel, quand même, pour les moyens, ne devait pas être énorme pour un film
je
de
crois
SF,
que c'est basé sur un court-métrage
oui,
qu'il avait pré-réalisé.
C'est ça. Un premier court-métrage. Je ne sais pas si c'était son premier court-métrage, mais en tout cas, il y a d'abord eu un court-métrage.
Il a dû s'associer avec des sociétés d'effets spéciaux, j'imagine.
Oui. Oui. Et franchement, il y a quand même, même si on devine qu'il n'y a pas des moyens énormes, il y a quand même une très bonne tenue visuelle au niveau de l'univers,
ah oui, c'est propre,
au niveau hein. Des engins, il y a même une petite scène d'action dans les airs qui est quand même bien fichue avec des engins volants. Donc il fonctionne bien. Alors malgré tout, il y a un manque de moyens, mais le manque de moyens ne dessert pas le visuel, mais il dessert plutôt la narration, moi je trouve, parce qu'il y a des trous dans l'histoire, où je pense qu'il s'est reposé sur l'univers qu'il avait construit pour que le spectateur comble les trous. Mmh. Alors il y a des moments où ça fonctionne très très bien, mais je pense à la scène d'ouverture, où tout le résumé que je viens de faire, en fait, il est contenu dans la scène d'ouverture qui est en dessin d'enfant.
Ouais. Puis même tout le world building qui est fait après, sur on comprend qui il est, qui c'est sa famille, quelle est leur relation aussi avec le voyage spatial et tout ça, je trouve que ça a amené de manière assez subtile, mais comme tu dis, je trouve qu'il y a un séquençage du film où en fait t'as une séquence, une espèce de moment un peu clipesque avec une musique où ça passe de plan à l'autre, de plan d'ensemble. Et en fait, c'est vrai qu'entre ces séquences, moi aussi, j'ai un petit peu perçu ces petits trous, comme tu dis.
Il y a aussi beaucoup les flashbacks qui ont tendance à revenir. On a tendance à nous remontrer certains flashbacks, mais pour bien appuyer certaines choses. En même temps, j'ai bien aimé dans le sens aussi, ça permet de remettre ces différents flashbacks en perspective avec différents moments du film. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu les motivations de certains personnages.
Oui,
parce
comme que ça remet en lumière des petits bouts de flashback qu'on avait
comme
vu une fois qu'il y a eu de certaines révélations.
Le frère, tu vois, tu comprends que le frère, il a toujours été envieux de son petit frère, du coup. Et c'est pour ça qu'il en a après lui. Bon, ça, plus le fait qu'apparemment, être venu de la planète l'a un petit peu rendu fou.
Il est un peu sociopathe, on va dire.
Il a un peu des pouvoirs télépathiques chelous.
Oui, il se sert pour faire se suicider des gens. Voilà.
Okay. Il a le même pouvoir, en gros, que dans Cure de Kiyoshi Kurosawa.
Ouais, il a le même pouvoir que le pneu dans Rubber.
Comme quoi, on revient toujours à ce putain de pneu.
Jean Renault... Y a que moi ou il a décidé de pas jouer dans ce film en fait
Non, bah moi la blague que je fais tout le temps, enfin la blague c'est un peu dépité quoi, parce qu'au fait de base j'ai rien contre Jean Reno, je sais qu'il se fait un peu défoncer comme ça. Au fait le gars il a le capital sympathie, on l'aime bien, mais c'est vrai que ça fait des années qu'il oublie de jouer quoi. Et là j'avais plus l'impression de voir la statue du musée Grévin de Jean Reno que Jean Reno lui-même.
En plus il y a
plus rien qui bouge.
En plus c'est vraiment cette scène où t'as le frère fou du coup qui revient. Où tu comprends, il a complètement vrillé. Enfin, il pourrait jouer le Joker dans un prochain film d'ailleurs. Et t'as vraiment lui qui cabotine à fond, et derrière t'as Jean Reno, rien.
Ouais, mais
en parallèle, il y a un moment où il essaye presque de jouer l'émotion, un flashback justement avec les enfants, là où je sais plus. Il y a un moment où il essaye d'un peu.
Avec
de pleurer.
La mère.
Oui, mais c'est un peu dans la caractérisation du personnage quand même, qui justement a du mal.
Un peu froid.
Oui, enfin bon, tu sens que c'est pas volontaire, c'est pas une incarnation.
Non, mais c'est un petit cabotinage inverse de l'autre, c'est qui cabotine.
C'est-à-dire qu'il est que dans l'intellect, il a pas. Il fait pas vraiment d'émotions.
Ouais, ça m'a pas choqué.
Ouais, ça soit calculé de sa part, tu vois, pour donner un côté. Je pense qu'il joue comme ça depuis
des années. Peut-être qu'ils l'ont casté aussi pour ce côté, ce jeu minimaliste aussi, pour contrebalancer.
Sûrement. Après, bon, voilà, ça me gêne pas plus que ça. Le film, en effet, il se tient plutôt bien. Moi, ça m'a surpris, en fait, dans cette faculté qu'a le réalisateur à, malgré tout, poser son univers très vite en quelques plans, quoi, au début. Et même si c'est des plans qu'on a déjà vus ailleurs. Bon, après, évidemment, pendant le film, il y a la scène qui fait penser à Fury Road dans le nuage rouge. Bon, voilà.
Tu parles de ça, moi, j'ai quand même une grosse réserve par rapport au film, même si j'ai bien aimé au global. C'est que le film est très référencé. Et moi, ça me dérange pas. De toute façon, tous les films de science-fiction sont basés sur des références. Mais là, il y a des références qui sont trop directes. C'est-à-dire qu'effectivement, Mad Max Fury Road, ça va au-delà de la scène où il rentre dans la tempête. C'est que tout le film est structuré comme Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que c'est une course-poursuite. Et à la fin, ils sont obligés de revenir au point de départ. Donc c'est exactement de la même manière. Cette planète qui s'approche dans le ciel, c'est Mélancolia. Il y a même des plans qui sont quasiment calqué dessus. Et moi,
le montage aussi, le final, c'est Interstellar. Quoi. C'est la musique, la bande originale, c'est quasiment le.
Voilà. Et puis,
bon, il y a des petites variations, mais c'est le thème d'Interstellar. Mais
les choix de musique sont pas forcément très. Enfin, ça fait un truc un peu cool, quoi. Genre la première chanson du film,
c'est des musiques de variété française.
Alors, je dois quand même dire que la scène de baston sur Eddie Mitchell. Il fallait l'oser.
C'est de la variété française, pour le coup, c'est plutôt original.
La première scène du film, c'est pas de la variété française, je sais plus, là je l'ai plus en tête, mais c'est un tube genre des années 80, un peu new wave, je sais plus c'est quoi, mais la chanson, on la connaît, mais tu vois, c'est cool, mais ça fait un peu truc justement trop conscient, moderne, où tu veux foutre de la musique cool comme ça pour donner un peu du cachet rétro aux images, et je trouve que ça va pas forcément bien. Mais après, bon, je le redis, je trouve que le mec arrive à poser son univers et à le rendre tangible et cohérent.
Le problème quand même de ces références-là, c'est qu'en fait, tout était un peu trop souligné. Je prends un autre exemple. Moi, dans le film, il y a un moment où j'étais content parce que je me dis, tiens, dans le film, il y a plein d'animaux dans le décor. Par exemple, la fille, elle est dans sa caravane. Derrière elle a un poster avec des insectes. Lui, dans sa voiture, il a une espèce de Peugeot volante. Là. À l'intérieur, il y a une espèce de baleine en plastique ou un truc comme ça. En fait, il y a plein d'animaux comme ça. Et en fait, ça, c'est un truc qui est repris sur Blade Runner. En fait, Blade Runner te dit, il n'y a plus d'animaux dans le monde. Et donc, tu vois plein de représentations d'animaux dans le truc. Sauf que lui, après, il va te refaire une scène où ils arrivent à un moment dans un cinéma et... dans le cinéma, on te dit les animaux ont disparu. Et là,
oui, c'est quelque chose que l'univers t'a déjà fait comprendre.
Voilà, c'est-à-dire, c'est des trucs que t'as déjà compris. D'accord, et qui étaient très subtils au début. Et après, ça te réassène un truc vraiment de manière littérale.
Il n'a pas forcément confiance en la capacité du public.
Et voilà,
à
c'est
capter,
la même
quoi.
Chose avec les références. On disait Interstellar, Mélancolia, etc.
Fury Road, j'ai vraiment pas trouvé ça subtil.
C'est
dans
pas subtil, c'est trop direct en fait. Ça manque donc. Je voudrais te faire une petite un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est je trouve que le personnage de l'adolescente, hein, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais je trouve qu'elle a un look qui est un peu un look de garçon. En fait, on peut même se demander à un moment si c'est un garçon, même si elle se caractérise comme une fille. Et en fait, il y a une espèce de miroir entre les deux personnages, entre elle et lui, parce que lui, il y a beaucoup de toute sa quête a trait à ce qu'il a vécu quand il était petit garçon, et elle aussi, et finalement il y a une sorte de destin croisé entre les deux, et ça j'ai trouvé ça assez touchant, et j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment je sais pas, très bien. Et puis, bah, qu'elle captait vraiment à l'image.
Puis elle amène beaucoup de dynamisme au duo aussi, parce que lui, de base, il est plus en mode introspection.
Plutôt en mode taiseux, faire un peu la gueule.
Et puis t'as elle qui va justement permettre à l'histoire d'avancer et à lui aussi de se révéler.
Elle a peut-être un petit jeu un peu de télé. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu, je sais pas, série française. Bah, ça
est-ce que c'est pas les, est-ce que c'est pas les dialogues?
Peut-être, c'est possible.
J'ai des réserves sur les dialogues qui sont un peu déclamé direct aussi, encore une fois.
Elle
n'est
pas nulle, mais il y a un petit truc comme ça, un peu télé française.
Oui, mais elle a une présence.
C'est plus sur ça, moi. C'est plus sur la présence. En fait, les dialogues...
On sent que les acteurs français n'ont pas l'habitude de jouer de la SF, dire certaines choses au premier degré.
C'est vrai qu'en termes d'ambiance, c'est un peu Ad Astra. Et Ad Astra, c'est ce côté un peu grandiloquent qui est supporté par les moyens du film. C'est-à-dire que ça peut se permettre d'être grandiloquent parce qu'effectivement... Tout est très épique dans la mise en scène. Alors que là, comme c'est beaucoup plus intimiste et minimaliste, c'est vrai que les dialogues sont pas naturels entre les personnages.
Moi, c'est bête, mais quelque part, ce film me fait beaucoup penser à certains films de Xavier Dolan. Alors, je sais
pas
que...
J'ai pas
compris
ça, la référence.
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, et particulièrement dans les scènes, pour moi, de flashback, là, dans Le Dernier Voyage, avec... bien la slow-mo et le noir et blanc, et c'est vraiment fait au forceps, etc. Et globalement, je trouve que... Enfin voilà, moi ça m'a fait penser à certains films de Xavier Dolan pour lesquels j'ai un peu la même sensation. C'est quelque chose voilà, avec des références, avec beaucoup de générosité, beaucoup de maladresse, quelque chose un peu du premier film, un peu. Pas très sûr de quelle proportion et de l'ego et quelle proportion et juste de l'engouement. Mais après, j'ai trouvé que. Alors là, ça se différencie. Bon, Xavier Dolan, je l'aime pour d'autres raisons. Mais là, sur Le Dernier Voyage, je trouve que malgré tout, l'ensemble. Fonctionne bien parce que on sent cet amour qu'il a du cinéma, cet amour qu'il a de ses références et que l'univers en soi fonctionne bien. Et pour moi, je crois que le truc qui vraiment me fait que je suis attachée à ce film, c'est que il a pas de prétention, j'ai l'impression, vis-à-vis de ça. Il avoue le fait d'être juste là pour poser cette atmosphère. Et moi, pour moi, ce qui le montre, c'est ces sœurs de garde qui ont un masque. Et quand ils parlent, on comprend pas les dialogues. C'est pas sous-titré, rien, c'est juste une sorte de crésiment, un peu de talkie-walkie, etc. Et le fait que...
C'est très Star Wars, ça.
Voilà, c'est très Star Wars, c'est très très Star Wars, mais le fait que... Enfin, c'est pleinement assumé le fait que c'est des personnages qui sont cartoonesques, finalement, dans cet univers. On sait pas ce qu'ils disent, et le film ne se prend pas au sérieux vis-à-vis de ça. Et moi, ce petit détail, je le trouvais très attachant.
Et pour autant, je trouve que... Moi, c'est vrai qu'il y a une qualité aussi... que j'attendais pas dans un premier film, c'est que dans un premier film, quand tu as des beaux effets spéciaux, les costumes sont assez beaux, tous les designs sont assez beaux, des voitures, des trucs comme ça.
Là, on est dans du post-apocrade.
C'est ça, mais je trouve qu'il ne s'appesantit pas sur ces petits détails qu'il a dû mettre du cœur à faire avec son équipe et tout ça. Et des fois, le défaut, c'est que tu peux un peu tomber dans le fan-film où c'est « Ah, regarde mon cosplay, il est trop beau !» et tout ça.
C'est naturel.
Et là t'as vraiment l'impression d'être devant un vrai film de cinéma où d'abord, ce qui prime, c'est le cadre, d'abord, c'est l'histoire. Même si des fois, il y a des moments qui sont pas hyper subtils ou hyper originaux, t'as vraiment l'impression de voir un vrai film. Et ça, déjà, c'est un tour de force à ce niveau de budget, niveau d'écosystème.
Ça doit être un budget riche.
Oui, voilà. Puis tu fais un film de science-fiction comme ça dans un écosystème français où le public est pas forcément hyper... Même s'il y a un petit engouement là avec la réouverture des salles, bon, le film il fait ses 50 000 entrées.
N'importe quel navet américain fera de toute façon.
Oui, voilà, alors que ça aura moins de gueule que ça. Ce qui est un peu triste, mais.
Non, mais ça rend curieux, avec un scénario un peu mieux écrit, avec un petit peu plus de moyens, ça rend curieux de ce qu'il peut faire par la suite.
On veut plus. Ouais.
Je trouve qu'il a beaucoup d'aspérité, mais ça lui donne de la personnalité, quoi. Et je préfère ça qu'un film extrêmement calibré, extrêmement lisse, qui aurait peut-être moins de défauts, mais et qui aurait peut-être mieux digéré, ou en tout cas digéré de manière plus subtile. Ces références, mais qui n'arriverait pas à créer cette émotion que là je trouve qui fonctionne dans Le Dernier Voyage.
Après, petit problème aussi quand même dans les salles, même problème que pour Ad Astra, beaucoup de gens qui sont venus voir un film d'action. Enfin, ça, c'est le marketing autour pour que ce soit vendeur. Évidemment, tu vois l'affiche, tu te dis ah, il y avait un
mais même la bande annonce, j'ai vu la bande annonce après, t'as l'impression que c'est un film d'action.
Ouais, alors que pas du tout. Et du coup, c'est vrai que le public, pas toujours très très réceptif. À cette SF qui est plutôt un essai de SF mélancolique.
Oui, parce que là on est quand même plus dans du road movie.
Oui, voilà, c'est pas du
mais
tout.
Mais du road movie contemplatif, on n'est pas dans. On n'est pas dans Mad Max. Clairement,
si tu attends Mad Max.
C'est pas non
tu
plus Mélancolia, quoi. C'est quand même accessible, quoi. Je veux dire,
plus accessible quand même.
Il se passe des trucs.
Voilà.
Oui, il se passe
des trucs. Et il y a du Eddie Mitchell.
Ouais. Oui.
Et du Barbara.
Et comment il s'appelle l'animateur radio dans le film?
Ah, Philippe Catherine.
Catherine.
Et oui, les cocos. Et ouais. C'est bientôt la fin.
Ah, ouais, bah voilà.
Mais il était bien dans le film en plus. Pour le coup, ses petites interventions holographiques étaient très sympa.
C'est vrai qu'en plus, lui, il a un côté complètement décalé dans l'intégration au monde. C'est-à-dire que lui, pour le coup, n'est pas du tout réaliste. C'est-à-dire la manière dont il parle, dont il s'exprime.
Oui, un truc de la gueule du monde, quoi. Oui, voilà, on va tous crever, c'est comme ça.
Mais c'est la principale source d'information sur ce qui se passe dans le reste du monde.
C'est des petites singularités qui sortent du carcan. Ce que tu disais, c'est pas calibré, quoi. Ça, c'est sympa.
Bon, ben, merci beaucoup. Donc, Le Dernier Voyage, en tout cas, un film qu'on peut dire avoir plutôt aimé autour de cette table. Pas de haters, en tout cas.
Non, on vous recommande.
Et qu'on vous recommande tout à fait. Et puis la science-fiction française, ben, on n'en a pas autant qu'on voudrait, donc c'est le moment de l'encourager. Merci beaucoup.
La Troisième Rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.